Chapitre 3. Deux ornières grignotées par les mauvaises herbes conduisaient jusqu'à la petite maison bleue avant de se poursuivre sur l'arrière du bâtiment. Luther parcourut le petit chemin sur toute sa longueur avant de se garer derrière le garage, de façon que personne ne puisse voir le Suburban depuis la route. « On s'en tient au plan initial ?» demanda-t-il à Jane. « Je ne vois aucune raison d'en changer. » Tout a bien fonctionné jusqu'à présent, mais ça pourrait bien ne pas durer. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Profitez-en pour récupérer votre petit garçon, déclara Luther. Jane s'éloigna en direction d'une grange délabrée qu'elle savait n'être qu'un leurre. L'air brûlant du désert vibrait du bourdonnement des insectes, troublé par la rumeur des voitures sur la route et le ronronnement d'un moteur d'avion dans le ciel. Un appareil similaire était déjà passé au-dessus de leur tête lorsqu'ils décrochaient le Suburban du camping-car un peu plus tôt. Les ennemis de Jane surveillaient-ils les communications téléphoniques dans l'espoir de la repérer si elle utilisait son portable? Elle s'arrêta devant une vieille porte en bois rongée par les vers et leva la tête en direction de la caméra soigneusement dissimulée dont Gavin Washington lui avait révélé l'existence. Des détecteurs de mouvement avaient alerté Cornell Jasperson de son arrivée et le cliquetis d'un verrou électronique se fit entendre. Jane s'avança dans une entrée au mur peint en blanc où l'attendait une porte blindée surmontée d'une autre caméra. Le battant qu'elle venait de franchir se referma dans son dos et celui qui se trouvait face à elle s'écarta. La bibliothèque de la fin du monde s'ouvrit soudain à elle. Avec ses lumières tamisées et ses milliers d'ouvrages aux couvertures de toutes les couleurs, elle était aussi magique que la lui avait décrite Gavin. Cornell, un géant de plus de 2 mètres aux articulations disproportionnées et aux membres dignes d'un robot mécanique, se tenait à distance respectable de l'entrée. Sans son visage d'ange à la fois maladroit et timide, il aurait fait peur à n'importe qui l'aurait croisé dans une ruelle sombre. À côté de lui se tenait Travis, comme pétrifié par la vue de cette mère qui lui manquait tant, incapable du moindre mouvement tant qu'il n'aurait pas étanché sa soif d'elle. Jane voyait en lui, au-delà de l'enfant qu'elle avait porté en son sein, le meilleur d'elle-même et de ce mari disparu qu'elle aimait tant. Travis incarnait ce que son passé comptait de plus heureux, toutes ces années de bonheur avec Nick. Mais il représentait aussi son avenir, puisqu'il ne saurait y avoir d'avenir pour elle si Travis devait en être exclu. En son absence, elle l'imaginait toujours plus grand qu'il n'était en réalité, sans doute parce qu'il emplissait tout son cœur et figurait ses meilleurs espoirs à un moment de sa vie où l'espérance jouait un rôle de premier plan, à la lumière du péril qui la guettait à chaque instant. Et voilà qu'elle le retrouvait plus petit que dans son souvenir, plus vulnérable aussi, d'une fragilité comparable à celle des deux êtres aimés que le destin lui avait ravis, Nick et sa propre mère. Elle s'approcha, tomba à genoux devant lui, et il se précipita dans ses bras avec ce qui ressemblait à du désespoir. Les chiens se mirent à gémir en donnant le sentiment de s'interroger sur la conduite à tenir avant de s'allonger par terre l'un contre l'autre. À cet instant, ni Jane ni Travis n'éprouvèrent le besoin de parler. La présence et la chaleur du petit garçon, la douceur de son haleine, le battement de son cœur pressé contre la poitrine de sa mère valaient tous les mots que pouvait receler cette immense bibliothèque. Elle lui embrassa la tête, le front, puis ses doigts et la paume de sa main lorsqu'il lui caressa le visage. Le « je t'aime » qu'ils échangèrent était la seule phrase digne d'être prononcée, mais elle suffit à ébranler Travis qui perdit son impassibilité. Des larmes noyèrent ses yeux, preuve qu'en dépit de son jeune âge, il ne se faisait guère d'illusions sur le sort de ses anciens anges gardiens, Gavin et Jessica Washington, bien qu'il ait fait bonne figure jusque-là.
« Ils sont partis, maman. Tante Jess et oncle Gavin. On ne les reverra jamais. Ils sont forcément morts. » Sinon, ils seraient déjà revenus. Ils sont morts, n'est-ce pas, maman ?
Lorsqu'ils avaient dû quitter en catastrophe leur maison de Virginie quelques semaines plus tôt, Travis avait compris qu'il lui faudrait grandir plus vite que la nature ne l'aurait exigé, et il s'était mis à appeler sa mère « Maman ». Dimanche soir, lorsqu'il avait appelé Jane sur son téléphone jetable, il avait renoué avec « Maman ». Et voilà qu'il recommençait. Jane avait toutes les raisons de haïr les ennemis qui la poursuivaient. Ces techno-arcadiens pétris d'arrogance ne s'étaient pas contentés de voler son père au petit garçon. Il lui avait dérobé son innocence. Il l'avait obligé à prendre la mesure de la noirceur du monde au lieu de le laisser l'apprivoiser progressivement sous la tutelle de ses parents avec toute la retenue nécessaire. Ce dimanche-là, lorsqu'il s'était parlé au téléphone, Travis avait exprimé ses craintes que Jesse et Gavin aient trouvé la mort, mais elle n'avait pas cru bon de le conforter dans cette peur. Pas tant qu'il serait aussi vulnérable. Pas tant que plusieurs centaines de kilomètres les sépareraient et qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de le serrer dans ses bras. À présent qu'ils étaient collés l'un contre l'autre, elle lui devait la vérité. Elle savait d'expérience que l'absence de transparence dans une famille était source de souffrance durable. Si sa propre mère ne lui avait pas caché ses problèmes conjugaux, si le grand pianiste Martin Duroc s'était douté que sa fille était au courant de sa liaison avec une autre et de la détresse de sa mère, peut-être n'aurait-il pas osé tuer sa femme de façon à épouser sa rivale. Oui, mon chéri, Jesse et Gavin ne sont plus là. Ils ont fait preuve d'un grand courage, ils ont été courageux toute leur vie, et ils t'aimaient autant que si tu avais été leur enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Demanda-t-il d'une voix qui tremblait sous le poids des larmes. Elle le serra plus fort encore, en le berçant doucement. On va veiller à ne jamais les oublier, mon chéri. À ne jamais oublier à quel point ils se sont montrés courageux, à quel point ils étaient formidables, gentils, généreux et drôles. Nous les aimerons toujours sans oublier chaque soir dans nos prières de remercier le destin de les avoir placés dans notre vie. C'est pas assez, répliqua le petit garçon dans le cou de sa mère, humide de ses pleurs. C'est pas assez, parce qu'ils le sauront pas. Bien sûr que si, mon amour. Ils le sauront tous les soirs. Ils t'entendront penser à eux tous les soirs, et ils sauront que tu les aimais autant qu'ils t'aimaient. Au chagrin de Jane s'ajouta celui de son fils, et elle se demanda jusqu'à quel point un enfant aussi petit pouvait tolérer qu'on lui brise le cœur.